le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge, pour vous servir avec moi dans le studio, Marie-Rose Sirikari, fondatrice du Conseil des femmes africaines, je l'ai dit en français, African Women Council, n'est-ce pas? Merci beaucoup Marie-Rose d'être avec nous.
Merci de m'inviter dans votre studio.
Alors vous êtes originaire de la RDC, du Katanga.
Oui.
Votre père était mineur.
Oui. Hein.
Vous avez une formation d'électricienne.
Oui.
Mm-hmm. Et vous êtes venue aux États-Unis en tant que réfugiée, c'est ça ou pas?
Oui. Oui, nous sommes venus aux États-Unis en tant que réfugiée.
Mm-hmm. Vous pouvez nous parler un petit peu brièvement de cette période? C'était dur?
C'était dur parce que mon mari a quitté le pays avant moi. Mm-hmm. Et je suis venue 3 ans après.
Oui.
Je l'ai rencontré à Nairobi. C'est à Nairobi qu'on a fait... l'application de venir ici aux États-Unis comme réfugié. Mm-hmm. Nous sommes venus en 1989.
Oui.
Ouais.
Et en tant que réfugié à l'époque, vous avez été bien reçu par les États-Unis?
Oh, nous sommes venus bien. Nous sommes vraiment très, très... nous voulons remercier la personne qui nous a accueillis. Nous avons accueilli par un ancien avocat et aussi il était... sénateur d'État et puis aussi il était county exécutif. Après ça, bon, il a créé sa fondation pour aider donc la communauté, les réfugiés, donc les immigrants.
Mmh. Oui. Alors on va parler des femmes et du développement socio-économique dans le Nord Kivu, parce que bien que vous soyez du Katanga, vous vous intéressez beaucoup à la situation bien sûr dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu en guerre, qui a été en guerre, on n'appelle plus ça une guerre aujourd'hui, mais on peut dire avec le nombre de milices armées hein, qui sont encore actives là-bas dans cette région, on peut encore parler de guerre civile hein, d'une certaine manière, il y a beaucoup de violences armées encore aujourd'hui. Donc vous vous intéressez au développement socio-économique, en particulier des femmes, à travers votre ONG. Pourriez-vous nous dire, dans un premier temps, quels sont les secteurs clés dans cette région, malgré la situation? Les gens travaillent, bien sûr.
Oui, dans cette région, je voulais dire, parce que c'est une région vraiment très fertile.
Mm-hmm.
C'était une région qui, avant, c'était le grenier même du Congo. C'est eux qui cultivaient, c'est eux qui exportaient la nourriture à Kinshasa, même dans les pays voisins. Et maintenant, depuis que la guerre a commencé, maintenant l'agriculture, il y a l'agriculture, mais elle ne fonctionne plus. Ben, ce qui nous intéresse, c'est pour donner la main aux femmes et aux filles et mères et à la jeunesse aussi.
Mm-hmm.
De leur donner un coup de main, de les aider pour dans ce domaine de l'agriculture et l'élevage.
Donc l'objectif, c'est d'autonomiser les femmes afin qu'elles puissent s'occuper de leur famille.
Oui.
Vous-même d'ailleurs, vous êtes mère de famille, vous avez 3 enfants qui sont grands aujourd'hui.
Oui.
Mais vous m'avez dit dans une conversation téléphonique auparavant que vous étiez femme de ménage. Mais ça ne veut pas dire que vous faisiez des ménages, vous vouliez dire femme au foyer, femme de ménage.
Oui.
Et puis lorsque vous êtes arrivée aux États-Unis, il a fallu travailler, donc autrement dit vous autonomiser.
Oui.
Et vous avez même conduit des bus, vous avez été chauffeur de bus, c'est formidable.
C'est ce que j'aime ici dans ce pays. Ce pays a beaucoup d'opportunités. Lorsque vous n'avez pas donc un métier quelconque, si vous venez aux États-Unis, s'il y a l'opportunité. Moi, je suis professionnelle électronicienne
et puis
je suis technicienne aussi. Donc, je fais l'assemblage électronique et aussi l'assemblage électrique. Et aussi, je conduis le bus. Mmh. Je travaille à la poste, donc j'ai acquis beaucoup d'expérience ici aux États-Unis.
Mmh.
Et j'aimerais que aussi les femmes congolaises de l'Est du Congo puissent avoir cette opportunité.
Mmh. Vous êtes un exemple en matière de métier, on va dire, parce que c'est des métiers, hein, surtout en Afrique, qui étaient, surtout à l'époque, on imagine, plutôt destinés aux hommes, en fait. Hein. Il devait y avoir peu de femmes qui pratiquaient ce type de métier.
Oui, c'était des femmes. Maintenant, donc les femmes, ce n'est pas comme dans notre génération. Maintenant, la génération est plus claire et aussi éduquée. Ils sont capables de le faire aussi.
suite dans la presse.
Le 7 novembre dernier, le pape François a nommé deux femmes sous-secrétaires à la Curie. Gabriella Gambino et Linda Ghisoni sont au dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Madame Gambino est professeure agrégée de bioéthique et Madame Ghisoni est juriste ecclésiastique spécialisée dans les questions maritales. Les deux Italiennes rejoignent Flaminia Giovanelli, autre compatriote nommée en 2010 et en 2017 au dicaster du développement humain. Deux autres femmes avaient accédé à ce niveau de responsabilité au Vatican. L'Australienne Rosemary Goldie, de 1966 à 1976, et l'Italienne Rosanna Enrica, de 2004 à 2011. Voilà, donc elles sont, si je compte bien, cinq à l'heure actuelle. Le chanteur irlandais Bob Geldof a rendu à la ville de Dublin une distinction dont est également récipiendaire Aung San Suu Kyi, sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise des Rohingyas. Si son combat initial était conforme aux valeurs irlandaises, nous avons été trompés, a déclaré la star du rock'n'roll, qualifiant la dirigeante birmane, prix Nobel de la paix, de meurtrière. Bob Geldof a donc rendu sa Freedom of the City of Dublin, qu'il avait reçue en 2005. Elle devrait rendre ses prix et peut-être aussi comparaître devant le tribunal de La Haye, qui juge les personnes accusées de génocide, a ajouté le chanteur devant la presse. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Marie-Rose Siricari. Marie-Rose, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce jumelage, le jumelage de l'État du Maryland avec la province du Nord-Kivu. Et dans quelle mesure ce jumelage peut-il être, on va dire, bénéfique aux femmes, finalement, aux femmes de la région là-bas?
Oui, les femmes de la région, en fait, avant de commencer ce jumelage, j'avais fait leur recherche, voir ce que les femmes ont besoin. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ici aux États-Unis, parce qu'il y a l'opportunité. Et attaquer conseiller aux affaires africaines de Maryland, du county executive, aussi reconnu par l'État de Maryland, le gouverneur. J'ai dit, je peux faire quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils m'ont demandé ce que nous voulons le partenariat, nous voulons l'agriculture et l'élevage, parce que ce n'est pas normal pour voir les gens meurent de la malnourrie, tandis que nous avons des poissons qui meurent dans l'eau, dans les lacs. Nous avons des lacs, des rivières. Donc nous avons les lacs Albert, nous avons les lacs Édouard, nous avons le lac Kivu, nous avons le lac Tanganyika, mais nous n'avons pas donc l'industrie des pêcheries, tandis que les femmes peuvent faire les affaires avec les poissons, parce que c'est leur métier, les femmes en fait, et aussi l'agriculture. Donc aussi,
et quel type d'agriculture on a en particulier dans la région?
La région, on parle, il y a toute sa marche, même les pommes de terre. Nous avons des haricots, nous avons des maïs, nous avons des bananiers, des madaniers, nous avons de tous les grains, quoi. Nous avons tout. Et puis la terre est fertile et puis on peut même récolter deux ou trois fois par an. C'est vraiment, c'est très important, ça peut aider parce que ça, c'est la nourriture est aimée par tout le monde. Tout le monde a besoin de manger. C'est pourquoi l'agriculture est très importante et les femmes peuvent bénéficier de ça.
Et ce type de jumelage, on imagine que les entreprises américaines sont intéressées effectivement pour investir là-bas, mais dans quel domaine elles pourraient vraiment apporter un soutien aux femmes, en particulier les petites commerçantes par exemple?
Les petites commerçantes et aux femmes, en fait, c'est pour les aider aussi, le partenariat, c'est pour voir quelle est leur activité. Donc si c'est l'activité, par exemple, de l'agriculture, on peut avoir le département de l'agriculture de Maryland au partenariat avec eux pour mieux produire beaucoup.
Mais en fait, il faut le dire que c'est assez nouveau, ça, finalement, le jumelage, ça date de quand, 2014, non?
On a commencé ça en 2014, mais à cause de la guerre, ça a traîné un peu, mais maintenant, c'est parce que la guerre...
Donc ça se met en marche petit à petit.
Petit à petit, oui.
Il n'y a pas encore eu vraiment d'échange entre les deux.
Il n'y a pas d'échange. Nous sommes en train de nous préparer, voir comment on peut faire un voyage là-bas pour l'échange culturel, aller visiter, voir, aller au terrain, voir ce qu'il y en a pour mieux commencer les activités de partenariat.
Parole de femme.
Les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles dans l'est de la RDC ont fait couler beaucoup d'encre et de larmes aussi, hein, il faut le dire. Oui. Malgré la persistance d'un tel fléau, les militants des droits humains témoignent toutefois d'une réduction des cas, comme Justine Massika-Biramba, coordonnatrice de l'ONG Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Elle s'exprime sur la question au micro de Jacques Aristide.
Les droits de la femme, c'est tout un problème. En période de paix, c'est les coutumes et traditions qui considèrent la femme comme inférieure. Et en période de guerre, son corps est utilisé comme arme de guerre et elle est violentée. Donc, les droits de la femme, ça reste un défi majeur, surtout dans les pays en conflit et les pays post-conflit. Mais on ne peut pas dire que les combats ne portent pas de fruits, puisqu'aujourd'hui, il y a diminution des cas de viol. Dans notre organisation, avant, on recevait au moins 40 à 50 femmes la semaine. Mais aujourd'hui, on a diminué, on est à 10, à 6. Et cela, c'est grâce au travail des médias, au travail de nous activistes de la société civile, mais surtout au travail qu'a fait l'envoyée spéciale du secrétaire général, puisqu'elle a fait un travail avec la police nationale. Aujourd'hui, nous avons une stratégie pour la police nationale de lutte contre les violences sexuelles. Nous avons une stratégie nationale pour l'armée, mais on a même une commission au sein du Sénat qui lutte contre les violences sexuelles. Là, c'est un travail de fond et ça fait que les personnes en armes, surtout l'armée et la police, et ils ont compris. Mais les grands défis restent les groupes armés. Vous savez qu'en RDC, surtout dans ma province, il y a une multitude, plus de 30 groupes armés actifs, étrangers et nationaux. Donc là, ça reste un défi.
Justine Massika-Biramba est coordonnatrice de l'ONG Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Marie-Rose, vous avez parlé tout à l'heure de voir un petit peu, en faisant visiter par exemple une délégation américaine dans la province du Nord Kivu, voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait être fait comme activité génératrice de revenus. Est-ce que vous prévoyez de rencontrer des groupes de femmes? Parce que vous savez que dans la région, les femmes, elles sont très engagées justement. Hein.
Très important. Ce sont les femmes que nous allons rencontrer la première fois. Mmh. On va rencontrer les femmes, nous allons rencontrer, parce qu'il y a beaucoup d'activités, nous allons rencontrer les hommes d'affaires, nous allons rencontrer les chefs coutumiers, nous allons rencontrer même les gouverneurs, les maires, et étudier ce que nous pouvons faire ensemble pour mieux développer le pays, quoi, pour mieux développer le Nord Kivu. Pas seulement dans l'agriculture, il y a beaucoup de services, ils ont besoin des services et comme ils nous demandent toujours, tout le temps, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de l'eau. Depuis que le Belge ont quitté donc le régime des eaux, ils n'ont jamais donc traité de l'eau. Maintenant, de l'eau est rouillée. Les gens, lorsqu'ils boivent de l'eau, de l'eau. Donc les gens sont malades. Ils ont des maladies, donc ils attrapent des maladies, des cancers à cause de l'eau, donc l'électricité. Donc on ne peut pas aller les aider comme ça sans des routes. Des routes et des routes complètement.
Vous la prévoyez quand cette visite de jumelage? En 2018?
En 2018, mais peut-être dans 6 mois. Donc,
d'accord.
Oui, en été 2018. Mmh. Ouais.
Si jeunesse pouvait.
Dix-huit miliciens présumés, dont un député provincial poursuivi pour viol et enlèvement de fillettes en RDC, ont comparu le 10 novembre devant la justice militaire à Kavumu, dans le sud Kivu. Dans son reportage, Ernest Mouero a tendu son micro au porte-parole du collectif des avocats pour les victimes, maître Charles Tchichoura.
Au début, le gouvernement prenait ça comme des cas isolés, jusqu'à ce qu'à un certain moment, ça prit une ampleur telle que l'on s'est dit non, ce n'est plus quand même des viols isolés, ça devient systématique parce qu'il y avait un même mode opératoire.
Jean Chrysostome Kidjana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile, précise qu'après investigation, son organisation a découvert que les violeurs qui ont créé la psychose à Kavumu entre 2013 et 2015 appartenaient à une milice aux croyances et pratiques fétichistes dénommée Jeshilaesu, pour dire armée de Jésus en Kiswahili.
Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de certains éléments d'une milice armée qui fondait leurs croyances en pensant que lorsque vous avez des rapports sexuels avec une petite fille, et vous devenez invulnérable au bal. Nous avons été en contact avec les mamans de ces enfants. Il y en a de ces familles où vous retrouvez la maman chaque jour, elle ne fait que pleurer. Lorsqu'elle voit sa fille, ça fait toujours mal. Ça laisse des cicatrices insurmontables.
Crispin Kachali, chargé des communications au sein de la Fondation Panzi, rappelle les tableaux qui s'est présenté au départ dans cette affaire des viols.
C'était d'abord des réclamations personnelles. Une famille appelait, voilà, il y a un cas ici, il y a un cas là-bas. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un fléau qui était arrivé juste dans ces milieux-là. Alors la Fondation Panzi a accompagné l'hôpital de Panzi avec la clinique juridique, où la clinique juridique a travaillé maintenant dans cette action, dans un consortium. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la justice soit rendue.
Astrid Mujinga, coordonnatrice de l'organisation Cordon des femmes congolaises pour l'équilibre des ménages, estime qu'il est primordial par l'action de la justice que les viols soient découragés.
La mère est doublement frustrée. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la situation de son enfant qui est violée et qui peut-être ne grandira pas comme les autres fillettes. Peut-être qu'elle n'aura plus d'enfants peut-être dans sa vie. Vous voyez que déjà, ça crée déjà des frustrations, une sorte d'affront, une sorte d'opprobre. Il faut que ça cesse parce que ce sont elles les mères de demain.
Au total, 48 petites filles victimes des actes de viol ont été recensées. Leur âge varie entre 8 mois et 7 ans. De Kavumu au Sud Kivu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec Marie-Rose Siricari. Vous avez entendu Marie-Rose à ce reportage de Ernest Mouero. En fait, ça rejoint finalement ce que disait Justine Masika-Bihamba. C'est-à-dire que, bon, il y a eu des progrès au niveau au sein de l'armée, au niveau des violences sexuelles, mais on retrouve le problème avec les miliciens, certains miliciens. Voilà, donc on revient sur notre sujet, les femmes et le développement économique dans le Nord Kivu. Vous avez parlé tout à l'heure des chefs coutumiers, justement, parce que vous allez les rencontrer. Dans quelle mesure les chefs coutumiers peuvent vraiment participer finalement au respect, je vais dire, au respect des droits des femmes et des enfants?
Les chefs coutumiers peuvent travailler avec le gouvernement local et en collaboration avec les amis, nos partenaires américains, pour voir comment ils peuvent créer le mécanisme durable pour que les femmes puissent être sauvées. Parce que les femmes sont victimes. Si on n'arrive pas à stopper cette insécurité, les femmes ne peuvent pas produire, les femmes vont continuer. Les femmes doivent être aussi à mesure à être dans des positions aussi là où ils peuvent décider. Donc les femmes doivent être dans une position là où ils peuvent décider aussi, comme dans les gouvernements, qui peuvent décider, même passer la loi pour aider les femmes, parce que les femmes ne sont pas représentés, je crois, dans les gouvernements. Pourquoi il y a les viols sexuels? Et nous, est-ce que nous avons des femmes dans les gouvernements qui sont très capables de passer la loi? C'est ça que je ne comprends pas. Donc, s'ils ont besoin, nous pouvons aider avec nos partenaires, voir comment on peut créer le mécanisme de terminer tous ces crimes-là.
On a un petit peu le sentiment que l'Est de la RDC, un petit peu comme la Centrafrique, bon, l'Est de la RDC, depuis la crise avec le M23, on a beaucoup parlé de cette situation de guerre civile dans l'Est. Et puis, bon, après cela, finalement, on a un petit peu cessé d'en parler. Mais ça continue de plus belle. Et c'est un petit peu la même chose en République centrafricaine. Et ce qui fait que les gens peut-être se sentent un petit peu abandonnés au bout d'un moment, non?
Non, c'est un peu abandonné. C'est pourquoi nous luttons ici aux États-Unis. C'est pourquoi nous luttons avec l'État de Maryland.
Il faut dire que ce n'est pas fini, quoi. En fait, la situation là-bas, c'est vraiment l'insécurité la plus totale.
C'est l'insécurité la plus totale. Mmh. C'est pourquoi nous avons plaidé aussi à notre délégué d'État. Son nom, c'est Shane Robinson, qui a passé la loi. Et ce qui se passe là-bas, c'est qu'il vient seulement pour les minerais. Et aussi le Maryland, je remercie le délégué d'État qui est donc parlementaire, qui a passé la loi, qui a déjà dénoncé que la guerre du Congo, ce sont des corporations illégales qui financent cette milice, les corporations qui font les choses électroniques. Mmh. Parce qu'au Congo, surtout à l'est du Congo, nous avons les coltans. Le coltan, sans coltan, on ne peut pas avoir les choses électroniques. Tu vois. Et puis, tout cela, le délégué d'État a passé la loi pour dire qu'au Maryland, pas plus question des minerais de sang qui vient dans la République démocratique du Congo et dans le voisin, et dans le pays voisin.
Entre parenthèses. Huit ans après le massacre de Conakry, les juges d'instruction en Guinée ont bouclé le 9 novembre 2017 leurs investigations. Le 28 septembre 2009, 150 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées au stade de la capitale lors d'un rassemblement politique. J'ai joint le ministre de la Justice, Cheikh Sako, au lendemain de l'annonce.
Il est important pour la nation guinéenne que ce procès arrive à son terme. Donc c'est la première partie qui s'achève par la fin de l'instruction. Dans les semaines à venir, on va entamer la préparation matérielle du procès à venir, dont la date sera fixée ultérieurement.
Est-ce que le procès, selon vous, va se tenir donc en 2018 ?
Comme on vient de terminer l'instruction, la procédure d'instruction qui a été longue quand même pendant un peu plus de 7 ans, vraisemblablement, le procès se tiendra en 2018. Mais je ne peux pas l'affirmer actuellement puisque je vais mettre sous pied un comité de pilotage qui va travailler sur les conditions matérielles et financières du procès et ensuite on va officiellement annoncer la date. Nous travaillons à toutes les parties. Hein. D'abord avec les partenaires au développement qui nous soutiennent, le gouvernement des États-Unis qui nous soutient, l'Union européenne, mais également les grandes ONG qui représentent une partie des victimes ici. Dans le comité de pilotage, beaucoup de parties seront représentées puisque c'est la préparation matérielle. Tout au long de la procédure d'instruction, les victimes ont été écoutées. Moi-même, à la chancellerie, je reçois souvent et de façon cyclique les représentants des victimes.
Est-ce que Dadis Camara va être convoqué en Guinée?
Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. Il appartiendra au magistrat de décider s'il faut venir pour assister et pour participer à ce procès. Mais dans la procédure pénale guinéenne, ça me paraît évident.
Voilà, Marie-Rose Sirikaria, on est passé de la RDC à la Guinée. À la Guinée, c'était le ministre de la Justice guinéen, Cheikh Sako. Pour terminer très rapidement, selon vous, Marie-Rose, que faudrait-il faire pour améliorer finalement la qualité, le pont entre la diaspora congolaise et le continent?
C'est la diaspora professionnelle africaine qui vit ici aux États-Unis, qui peut travailler avec nos partenaires pour faire le partenariat avec les hommes d'affaires, les femmes, toutes les activités privées. Mmh. C'est ça, ça peut aider
le privé, mettre l'accent sur le privé. Et les femmes ont peut-être plus de chance aussi dans ce domaine-là.
Oui.
La jeunesse aussi.
La jeunesse est le leader de demain. On doit aussi les incorporer dedans. Le jumelage, ça peut être la connexion entre la diaspora avec les privés en Afrique.
Merci beaucoup Marie-Rose Sirikaria. Un grand merci également à Joselle Morissin à la technique. Un grand merci forcément à nos chers auditeurs, nos chères auditrices. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.